Philippe, au début de son introduction, a mis l'accent sur le fait que mon livre se présente, bon, tu as utilisé une métaphore leibnizienne, c'est une petite monadologie, effectivement, dans lequel je pense que chacune des monades que j'ai étudiées exprime l'univers tout entier que j'ai voulu décrire. C'est un des points de vue possibles. La différence, peut-être, c'est que ces monades communiquent, puisqu'il y a une conversation. Mais après tout, même chez Leibniz, il y a quand même une communication entre les substances. Il y a aussi une harmonie qui se fait sur la base de ces dissonances importantes. Alors, tu as dit, je suis très touché, que j'étais à la fois un Jungien confiant et un Nietzschéen désabusé. Un de nos amis communs, Heinz Wiesmann, avait eu l'amabilité de dire la même chose en disant que j'étais un Weberien à visage Jungien. Ça, c'est à peu près la même chose, je crois. Ça revient un petit peu au même. Bien qu'apparemment, on soit très loin de mes anciens intérêts sur la sociologie de Max Weber, ce qui va me conduire peut-être aux questions posées par Céline Spector, que je remercie de sa lecture si attentive. Si je me souviens bien, vous avez posé trois questions qui étaient celles de la manière dont on peut écrire l'histoire culturelle, celle de la relation entre la civilité et l'idée européenne, et celle du sens de la rupture révolutionnaire. Sur l'histoire culturelle, vous avez cité le beau livre d'Antoine Lilti, que je trouve pour ma part un très beau livre, c'est un livre excellent, que d'ailleurs j'ai cité au début du chapitre sur Hume, et qui est en effet pour moi un des livres important sur cette histoire, mais je vous dirais simplement qu'étant donné que ce livre existait déjà, je n'ai pas eu l'intention de le réécrire. C'est-à-dire, je trouve que sur l'histoire culturelle des Lumières, sur les rapports entre la sociabilité des salons et les pensées des uns et des autres, sur la transformation de la réception et la réinterprétation de ces expériences du XVIIIe siècle dans le XIXe siècle, nous avons beaucoup de choses. Nous avons notamment l'excellent livre de Lilti, ce qui m'a autorisé à faire autre chose, qui était ce que j'ai voulu faire, en effet, c'est entrer dans la manière dont on a pensé ces choses-là à ce moment-là. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres moyens, en tout cas je n'en connais pas d'autres, que d'entrer dans la pensée de quelques grands auteurs. Mais il est vrai que je ne sais rien faire d'autre. C'est pour ça que j'ai toujours eu un problème pour me définir comme un historien des idées, parce que l'histoire des idées, c'est une discipline que j'admire beaucoup, mais que je ne pratique pas parce qu'elle suppose qu'on passe de manière transversale, qu'on suit des thèmes d'un auteur à l'autre, alors que ce qui m'intéresse par idiosyncrasie d'histoire de la philosophie, c'est en effet la cohérence interne, la richesse interne d'une pensée, et dont je crois par ailleurs que c'est quand ce sont vraiment des grands penseurs et notamment des grands philosophes politiques, cette pensée n'est pas seulement une pensée de la philosophie, c'est une pensée de quelque chose. C'est-à-dire, je crois que à travers la conversation que j'ai restituée, on voit les enjeux essentiels, les enjeux politiques, les enjeux de société, les mutations qu'on peut décrire. Je crois qu'on peut les voir dans ces affaires-là. Après tout, bon, on voit par exemple très, très bien à quoi pensent nos auteurs quand ils distinguent la France, la Russie et l'Angleterre. Et je ne crois pas qu'on ait absolument besoin de savoir quel était l'ordre des. Comment dirais-je, quels étaient les plans de table, quel était l'ordre des plats, comment se déroulait une soirée chez Madame du Deffand, c'est des choses qu'on peut apprendre par ailleurs, mais qui ne sont pas ce qui intéresse, je crois, les gens à l'époque. Ce qui les intéresse, c'est une Gestalt, là, c'est une forme générale qui sentent immédiatement, qui fait qu'on est dans la civilité française ou qu'on n'y est pas, ou qu'on est dans la civilité anglaise. Donc, j'ai écrit un livre et je ne voulais pas en écrire un autre, si vous voulez. Bon, ça n'empêche pas d'en écrire d'autres, mais dans cette question, il y avait, je crois, une question, enfin d'ailleurs, que j'avais explicitée à un moment, ça me permet d'y répondre. Est-ce que dans tout cela, le registre principal serait, ne serait pas subrepticement, comme vous avez dit, je crois, la nostalgie ou quelque chose comme ça. Bon, vous nous avez rappelé, vous avez tout à fait raison, que le monde des salons du 19e, c'est dans une certaine mesure une invention du 19e, parce que c'est là-dedans qu'on va rechercher à retrouver la société perdue, etc. C'est tout à fait vrai. Pour ne rien vous cacher, d'ailleurs, au départ, j'avais l'intention de faire un livre qui se serait prolongé jusqu'à Proust. J'explique à la fin de mon livre pourquoi j'ai arrêté, pas simplement parce que j'en avais marre, et parce que mon éditeur voulait avoir un livre, et il avait bien raison, et il voulait avoir un livre et pas un projet de livre plus gros, il voulait avoir un livre en chair et en os, si j'ose dire, et il avait tout à fait raison, mais aussi parce que je pensais qu'il y a quelque chose qui s'est fermé avec l'avènement de la démocratie, avec les deux auteurs que j'ai choisi pour terminer, Tocqueville et Stendhal. Après, on est dans un autre monde, et c'est précisément parce que, pour ma part, je ne suis pas animé par les passions ou les intérêts qui dominaient dans le second 19e siècle, que je me suis arrêté là, parce que je voulais faire tout autre chose que cette reconstitution que faisaient Victor Cousin, Sainte-Beuve, etc., un certain nombre d'esprits dont certains étaient supérieurs et d'autres moins. Mais je trouve que tout ça a été fait, mais ça n'était pas mon sujet, parce que mon sujet, justement, n'est pas, ou mon objet, ou mon but n'est pas de chercher soit à célébrer, encore moins à restaurer les fastes et la splendeur de la civilité française passée, mais comme j'essaye de le dire à la fin de mon livre, de nous inviter à nous comprendre en prenant les problèmes de la société moderne au moment où elle se forme et tels qu'ils ont été vécus par les philosophes les plus grands. Et je fais ça pour finir parce que, comme disait un jour mon regretté ami Castoriadis, j'ai tendance à penser que la pensée va plus vite que la réalité. C'est un travers de philosophe. Je crois qu'on voit, en prenant directement les plus grands au 18e, des choses qui mettent deux siècles avant qu'on puisse vraiment les comprendre. Et j'ai voulu les prendre in statu nascendi. Deuxième question que vous avez posé, Céline, c'était sur la question de l'Europe, qui, si j'ai bien compris, inclut là aussi implicitement un problème sur les éventuelles frontières de l'Europe, et d'autre part sur disons, ce qui reste de l'idée de civilité dans l'Europe contemporaine. Sur les frontières de l'Europe, moi, je suis intimement convaincu de ce dont sont convaincus, je crois, la plupart des gens dont je parle, sauf peut-être Voltaire, parce qu'il est curieusement le plus universaliste de tous, de ce point de vue-là, ou à la fois le plus universaliste et le plus ouvert aux autres cultures, comme on dit. Moi, je crois que la manière dont Kant pose le problème dans les textes que je cite, consiste à dire qu'il y a une réalité de l'Europe et il y a une idée de l'Europe. L'idée de l'Europe, c'est comme le dit Kant, c'est la combinaison de la liberté et de la légalité. C'est le progrès du droit, c'est en ce sens, dit-il, que toute l'humanité va devenir européenne, ce qui, comme on l'a rappelé après, ne correspond pas à une domination, mais à un projet dont il se trouve que l'Europe a été le point de départ empirique, et il faut bien, même chez Kant, qu'il y ait un point de départ empirique. Alors, ce projet, par ailleurs, tel que le décrit Kant, passe, je pense que c'est une des choses qui s'efforce de penser, par la formation des nations européennes, des États-nations, et effectivement, il arrive à un point précis dans lequel il faut poser la question des limites historiques de l'Europe, et il en exclut la Turquie et la Russie pour des raisons qui, à mon avis, sont assez bonnes, même si je suis bien d'accord avec vous qu'il n'avait pas prévu Atatürk. Alors, par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là sur l'Europe d'aujourd'hui, la société ou les sociétés européennes d'aujourd'hui ? Vous avez cité notre ami Étienne Balibar et un ou une sociologue, j'ai pas bien compris de qui il s'agissait. Oui.
Ah, il s'agit de Caroline Di Bellafai.
D'accord. Mais moi, je vois pas, si vous voulez, de problème inédit dans cela, précisément parce que lorsqu'il s'agit de la civilité, la civilité, chez les gens dont je parle, c'est pratiquement une donnée anthropologique. C'est justement ce qui la distingue de la politesse qui est liée à un état de raffinement particulier des sociétés, en France particulièrement, mais pas ailleurs. Je pense, si vous voulez, que tel que les gens que je cite parlent de la civilité, c'est tout à fait ce que vous dites. Et il n'y aurait rien de choquant, mais du coup rien de nouveau, à dire qu'un des aspects de la civilité, c'est la capacité des sociétés à traiter de manière équitable et humaine les faibles, et pas simplement à mettre de l'agrément dans la vie des puissants. Je crois que c'est précisément cela. Si vous voulez, un des points dont je suis parti, c'est à la fois, je pense, avec Rousseau et contre Rousseau, je pense que ce qui est au cœur du XVIIIe siècle, qui est souvent sous-estimé, c'est la notion de sociabilité. Bon, je pense qu'on est habitué à un schéma qui est faux, qui est de penser, par exemple, les philosophes politiques du XVIIIe siècle comme des théoriciens essentiellement du contrat social. Moi, je pense que ce qui est au cœur des théories du XVIIIe siècle, c'est la sociabilité naturelle, qui n'est pas la nature politique de l'homme, parce que ça suppose qu'il y a une affection sociétatiste dans l'humanité, qui ne passe pas nécessairement par la constitution de sociétés politiques libres, qui n'est pas forcément dans le modèle aristotélicien du citoyen, qui est quelque chose de plus modeste, mais qui est précisément virtuellement universel. La sociabilité va avec une certaine idée cosmopolitique, et tout cela va avec l'idée européenne telle que se déploie au XVIIIe siècle. Donc je crois que sur ce plan-là, nous sommes dans la continuité plutôt que dans la rupture. Ce qui est problématique dans notre monde, je vais y revenir tout à l'heure, c'est la politesse et pas la civilité. Si du moins on donne à ces termes le sens qu'ils avaient au XVIIIe siècle. La troisième question que vous avez posée, c'est celle du sens de la rupture révolutionnaire, de ce passage, disons, de société aristocratique dans lequel la reconnaissance passe par l'acceptation de la hiérarchie, à des sociétés modernes dans lesquelles la reconnaissance va de pair avec l'universelle reconnaissance de la dignité humaine. Bon, que ça soit quelque chose qui est en jeu dans l'avènement de la démocratie, ça me paraît clair. Que la Révolution française y joue son rôle, du coup, c'est également certain. Bon, vous créditez Rousseau d'une position éminente dans cette question, sur laquelle je ne vous suivrai qu'à moitié, parce que, comment dirais-je, la construction rousseauiste, précisément parce qu'elle part de la négation de la sociabilité naturelle des hommes, me paraît, comme toujours chez Rousseau, faite plutôt pour produire des difficultés que pour faciliter les choses. Le génie de Rousseau, c'est d'embêter les gens, c'est pas de les aider à formuler des réponses. En revanche, je pense pour ma part, c'est très classique, c'est très Troisième République, ça j'en conviens, que le véritable auteur là-dedans, c'est pas Rousseau, c'est Kant. Le penseur de la dignité humaine par excellence, me semble-t-il, c'est Kant, et qui a un certain rapport avec la Révolution française. Là, nous sommes d'accord. Alors, vous m'avez placé, si je me souviens bien, dans la continuité de l'œuvre de François Furet. C'est une continuité que j'accepte volontiers et qui m'honore. Je m'efforce d'être dans cette continuité, mais j'ai cru comprendre que vous en concluiez que, comme Furet, je sous-estimerais les effets de la rupture révolutionnaire. Bah, comme Furet l'avait dit, il n'aurait pas passé toute sa vie à travailler sur ça s'il estimait que ce n'était pas vraiment important. Je crois au contraire que s'il y a quelqu'un qui a mis l'accent sur la radicalité de la révolution et la radicalité de la rupture produite par la révolution, c'est bien lui. Simplement, comme il était historien, il savait que ça n'avait pas été tous les jours dimanche. Et il n'avait pas de sympathie pour ce que disait Mona Ozouf au moment de la commémoration du bicentenaire, c'est que quand on commémore quelque chose, on est bien obligé de faire des distinctions. Ça n'empêche pas de penser l'unité du processus révolutionnaire par ailleurs. Bien, écoutez, j'espère avoir un peu répondu à une partie de vos remarques et de vos questions, et je vous remercie encore une fois de cette lecture si attentive. Qui me conduit maintenant à celle du prétendu simplet empirico-transcendantal, qui a eu l'amabilité de rappeler des conversations antérieures. Alors qui j'ai bien compris, me dit que j'ai gagné la partie, mais qui veut quand même la rejouer. Bien. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux questions différentes. Vous avez posé deux questions bien distinctes, celle de l'Angleterre et celle de Kant. Sur l'Angleterre, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il me semble, si vous voulez, que comme vous m'aviez fait cette objection du fait que l'Angleterre s'est vue comme une polite society, j'ai entendu l'objection et je me suis efforcé d'y répondre. Parce que ça, vous dites que ça pourrait faire l'objet d'une note de bas de page. En fait, ça fait l'objet de quelques pages, et pas d'une note de bas de page. C'est même un des points de départ dans mon premier chapitre. Ce que j'essaye de voir, j'essaye de voir dans le premier chapitre ce qu'il y a de nouveau au XVIIIe siècle, quand on passe du XVIIe au XVIIIe siècle, où souvent les thèmes sont les mêmes, les expressions sont les mêmes, les formules des moralistes français sont entièrement repris chez les auteurs du XVIIIe, et pourtant on n'est pas tout à fait dans le même monde. Eh bien, justement, le chaînon manquant, si j'ose dire, entre la France de Louis XIV et les Lumières, ce sont les proto-Lumières anglaises. Moi, je suis assez d'accord avec vous, assez d'accord avec cette construction. Je pense qu'il faut donner, d'ailleurs, ce n'est pas très original, mais il faut le faire quand même, une place très importante à Chauve-de-Jury, qui est le grand penseur de ça. Mais dont en même temps, si vous voulez, je pense que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que Chauve-de-Jury, vous l'avez lu. Entre nous, c'est très très bien Chauve-de-Jury. Quand on fait des cours sur Chauve-de-Jury, on peut toujours montrer que c'est très bien. Quand on le lit, c'est beaucoup moins drôle. C'est-à-dire c'est quand même extrêmement ennuyeux et filandreux, même un petit peu. Enfin, c'est un peu... Je ne voudrais pas faire dans les stéréotypes, mais c'est un pudding un peu lourd quand même. Mais c'est un pudding un peu lourd dans lequel on voit très bien, c'est une très belle philosophie par ailleurs, qu'il y a une philosophie dans laquelle la politesse s'intègre dans une vision générale, pas simplement de l'Angleterre, mais aussi de l'ordre des choses. Il y a une théodicée subtile qui est assez proche de celle de Pope, dans lequel il y a, c'est englobé dans une théorie de la sociabilité, de l'humanité, de l'ordre du monde. Et ça s'inscrit, me semble-t-il, dans un moment de la conscience anglaise qui est le moment bien compréhensible où les Anglais ont l'impression qu'ils sont en train de dépasser la France. Sur le plan politique, et que peut-être ils ont encore quelques progrès à faire pour devenir aussi polis que les Français, mais que je ne dirais pas ça va le faire, mais ça va se faire. Ça va se faire naturellement, dans la conscience, me semble-t-il, des Anglais. Ce que j'ai voulu signaler, c'est qu'il y a une rupture qui se passe dans les entre 1700 et 1730, qui fait qu'à un certain moment, ce projet devient problématique ou change de nature, parce que beaucoup d'Anglais, dans ceux qui sont dans le whiggisme dominant et plutôt dans le whiggisme vulgaire, considèrent que l'Angleterre, c'est mieux que la France, y compris sur la question de la politesse et de la civilité. Et il y a un discours anti-français qui commence à se développer, qui est dirigé contre la politesse française, qui est un ensemble de faux-semblants. Le tournant, on le voit très bien dans les lettres de Chesterfield, qui est le dernier, me semble-t-il, grand défenseur de la France avec Hume, mais Hume n'est pas anglais. Et il y a un changement qui se produit, qu'on voit très bien, d'ailleurs, assez tard dans mon livre, quand on lit les textes des Américains, des Américains qui sont à Paris au moment de l'indépendance américaine, les Américains sont évidemment des Anglais. Et ce qu'exprime John Adams, qui est horrifié par les mœurs et les manières françaises pour des tas de raisons, c'est ce qu'est devenu la vision anglaise de la France et la vision anglaise du problème de la politesse. Inversement, chez Franklin, qui est plus disposé, mieux disposé à l'égard de la France, notamment parce qu'il est un politique bien plus intelligent que Adams, et qui sait comment prendre les Français. Bon, si Adams n'avait pas été remplacé par Franklin, d'ailleurs, ça aurait pu être différent. Peut-être que la France n'aurait pas soutenu l'indépendance américaine, ce qui serait triste. Peut-être du coup qu'on n'aurait pas eu la Révolution française, parce qu'on ne se serait pas ruiné dans cette aventure. Enfin, Franklin est un personnage absolument déterminant dans l'histoire universelle. Et une des raisons pour lesquelles il est si déterminant, c'est parce qu'il avait compris et aimé la politesse française. Vous voyez, le poids de la politesse française dans l'histoire universelle est considérable. Mais Franklin, justement, dans la mesure où il est plus sensible à ces vertus-là, est également plus sensible aux qualités de la France du XVIIIe siècle. Donc, je pense sur ce plan-là que, en fait, nous devons être d'accord. Sur Kant, je ne suis pas tout à fait certain que nous soyons d'accord, parce que c'est tout repose sur la manière dont on essaye d'établir la médiation de ce que Foucault, à qui il arrive d'être un grand historien, a appelé le doublé et pas le simplé. Parce que le simplé empirico-transcendantal, c'est évidemment une allusion au doublé empirico-transcendantal que, comme tout le monde ne lit plus les mots et les choses, bon, peut-être que ça avait échappé, enfin, peut-être pas, peut-être que tout le monde connaît ça, mais enfin, c'était plus connu dans mon jeune temps qu'aujourd'hui. Le problème, c'est à la fois l'unité de la philosophie de Kant, bien entendu, mais aussi la médiation entre la liberté et la nature. Bien, alors, je partirai d'une remarque profonde que vous avez faite et avec laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il est bon de comparer le statut du droit et le statut de la civilité ou de la politesse chez Kant. Comme vous l'avez dit très bien, dans la doctrine du droit, il s'agit des relations extérieures entre les sujets. La moralité, au sens strict, elle est définie par... Enfin, pas simplement, mais elle suppose évidemment la dimension de l'intériorité. Ce que le droit nous oblige à faire, c'est agir conformément au devoir, mais agir conformément au devoir, là, c'est pas la moralité, c'est agir par devoir, etc. Vous avez très, très bien dit que le statut de la civilité ou de la politesse se trouve quelque part entre les deux. Que le paradoxe de la manière dont Kant voit cette question, c'est le paradoxe, enfin, un paradoxe auquel il faut bien faire une place, sinon la philosophie de Kant serait ce que ses adversaires prétendent qu'elle est, c'est-à-dire serait hors sol. C'est qu'ils font bien comprendre comment on peut devenir moral. Et on peut devenir moral parce que, comme il le dit dans plusieurs textes, ce que nous apprenons par là, c'est une maîtrise par la politesse ou par la civilité, comme vous voulez, c'est une maîtrise des passions qui est la précondition de la moralité, précondition de l'autonomie de la volonté, de l'acceptation de la raison. C'est évidemment cela. Alors, est-ce que, une fois qu'on a accepté cela, une fois qu'on a accepté ça, est-ce que le hiatus demeure? Sans doute oui, mais est-ce qu'il est aussi profond que vous le dites? Je ne crois pas pour deux raisons. Bon, la première, vous avez dit que Kant donne des exemples de politesse qui sont parfaitement indifférents du point de vue de la moralité. Oui, bien sûr, mais pourquoi en irait-il autrement? Il suffit que la politesse ne soit pas incompatible avec la moralité pour que ça marche. Alors, l'exemple des formules de politesse est très drôle. Il est encore plus drôle, d'ailleurs, tel que Kant le donne, puisque ce qu'il dit, c'est que quand vous terminez une lettre par la formule « Je suis votre très humble et très obéissant serviteur », votre correspondant ne va pas vous demander de faire le ménage chez lui. Parce que il comprend. Donc, non seulement il n'y a aucune intention de tromper, il n'y a aucun risque de tromper. Alors, ça pose d'ailleurs parfois un problème. Je me souviens d'un témoignage très intéressant de Kundera, qui, quand il était encore en Tchécoslovaquie, était en communication avec les attachés de presse, les journalistes chez Gallimard, et il avait des jeunes femmes qui terminaient leurs lettres en disant qu'ils elles lui priaient d'agréer leurs sentiments les meilleurs, etc. Et il a été très déçu, une fois arrivé en France, de voir que ces sentiments de ces jeunes femmes n'étaient pas aussi, aussi chauds qu'il aurait pu l'espérer. Donc peut-être finalement qu'on pourrait discuter, non pas philosophiquement, mais empiriquement, de la portée de l'exemple de Kant. Mais enfin, en tout cas, il n'y a pas d'immoralité. Et surtout, comme dit Kant dans une formule que j'adore, les bonnes manières, c'est de la petite monnaie, mais ce n'est pas de la fausse monnaie. C'est de la petite monnaie, mais ça n'est pas de la fausse monnaie. Je trouve que c'est très bien vu et très très bien dit. Mais, bon, donc il y a une différence entre la vraie politesse et la fausse qui nous entraînerait vers l'immoralité. Mais, bien entendu, il y a une différence qui se maintient. Simplement, dans votre présentation, vous considérez que le lieu dans lequel le hiatus entre l'intelligible et le sensible où se produit la tentative de réduire le hiatus, c'est l'anthropologie, dont vous savez que j'ai toujours trouvé que c'était un grand texte, et dont je crois me souvenir que vous n'avez pas toujours été de cet avis, mais j'espère vous avoir convaincu sur ce point précis. Mais je pense que, et vous mettez d'un côté l'anthropologie, de l'autre les trois critiques, en disant que le hiatus se maintient davantage dans les trois critiques parce que vous les lisez à partir de la deuxième. Alors j'ai deux, je ne dirais pas objections, mais deux remarques à faire sur ce point. La première, c'est qu'après tout, la dernière critique, c'est la troisième, et pas la deuxième, par définition, et que dans la critique de la faculté de juger, on retrouve, je ne me souviens plus, l'Alzheimer progressant, je ne me souviens plus des paragraphes, des numéros des paragraphes, mais on trouve des développements très précis qui sont exactement dans le sens de ce que j'ai essayé de construire. Mais ce que j'ajouterais davantage, c'est que la question de la... Il y a une autre manière de poser la question de la médiation entre du hiatus entre l'intelligible et le sensible, entre l'empirique et le transcendantal et l'empirique, etc. C'est celle qui est faite dans la métaphysique des mœurs, et singulièrement dans la doctrine de la vertu. Or, un des textes les plus importants de Kant sur la politesse se trouve dans la doctrine de la vertu, et à mon avis, il répond tout à fait, à mon sens, à votre question, en disant que, en faisant une distinction très subtile entre les grâces et les vertus. Il explique la politesse, les bonnes manières, le fait d'être aimable avec ses voisins, etc. Ce sont des grâces et ce ne sont pas des vertus. Mais pour différentes raisons, dont le fait notamment que dans les devoirs dérivés, il y a le devoir de travailler Kant dit qu'il faut travailler au perfectionnement de soi et au bonheur d'autrui, ce qui me paraît tout à fait juste. Un de mes amis m'a dit un jour, moi c'est à l'époque où j'étais gauchiste, je faisais le contraire. Je travaillais à mon bonheur et au perfectionnement d'autrui. je trouve que c'est très bien vu. Mais Kant, contrairement à ce que croit le sourdeau, n'a jamais été le moins du monde gauchiste. Mais enfin, donc, laissons de côté ces plaisanteries. Ce que dit Kant dans ce texte que je cite à la fin de mon livre, d'ailleurs, c'est cette très jolie formule, c'est qu'il faut donc unir les grâces à la vertu, et ceci est un devoir de vertu. Donc je crois, si vous voulez, pour résumer ma réponse, je pense, si vous voulez, que ça n'est pas simplement l'anthropologie, mais aussi dans la doctrine de la vertu, donc dans quelque chose qui, pour reprendre les distinctions d'aujourd'hui, est normatif et pas simplement descriptif, etc., qu'il y a l'idée d'une continuité possible entre la moralité et la politesse. Alors, un dernier mot sur Kant, au passage, et sur l'Angleterre également, puisque je ne sais plus si c'est vous ou quelqu'un d'autre, pardonnez-moi, qui avait posé la question de savoir ce que. Enfin, d'une part, ce que devient la relation entre la France et l'Angleterre chez Kant, et d'autre part, la question du rapport entre le développement du droit et l'histoire de la civilité chez Kant. Je pense qu'un des points importants, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est dominant au XVIIIe siècle, pour moi, ce sont les théories de la sociabilité, qui sont souvent la même chose que les théories de la sympathie, qui peuvent se construire de manière d'ailleurs très, très différente, chez Savoury, chez Hume, etc., mais qui ont un point commun qui est d'être dirigé, disons, contre la Rochefoucauld, contre l'héritage de ces choses-là. Kant fait un petit écart par rapport à la tradition dominante des 18e, c'est que, comme vous savez, il définit l'humanité par l'insociable sociabilité. L'insociable sociabilité, d'un côté, nous ramène à Hobbes. Et nous ramène à Hobbes parce que, et à la Rochefoucauld, parce que d'une certaine manière, pour qu'on ait le rigorisme moral, l'impératif catégorique, etc., il faut qu'on soit du côté de la Rochefoucauld, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pose la possibilité que quelqu'un puisse être vertueux par vice, si j'ose dire, puisse être vertueux apparemment sans, par calcul, etc. Il faut faire une place à l'anthropologie hobbésienne, mais, et c'est d'ailleurs curieusement ce qui permet l'espoir cosmopolitique, c'est le fait que du mal sortira le bien. Par exemple, quand Kant dit dans un texte célèbre du projet de perpétuel que le problème de la constitution républicaine peut être réglé même chez un peuple de démons. C'est la transformation, disons, de l'héritage des théories du XVIIe siècle en philosophie de l'histoire. Mais l'autre face, c'est la sociabilité, dans l'insociable sociabilité. Et la sociabilité, elle, est davantage du côté de la vertu et davantage du côté de la possibilité de voir naître la vertu à partir de la nature humaine. Je crois que c'est ça qui traverse l'œuvre de Kant, cette tension, et peut-être que c'est là que se situe la tension. Et ce qui est quand même intéressant quand on lit de près l'anthropologie, c'est qu'on s'aperçoit que dans sa vision, certainement datée, des relations entre la France et l'Angleterre, l'Angleterre est du côté de l'insociabilité, c'est pour ça qu'elle est du côté du droit, et la France du côté de la sociabilité. Bon. Alors, ça nous entraînerait trop loin, mais c'est parce que vos questions étaient trop riches. Je n'y peux rien. Alors, tout ça me conduit à, pour finir, à tout ce qu'a dit Claude, qui était tellement beau et bien dit que j'ai un peu de peine à répondre. Mais peut-être essayer de revenir sur Rousseau, puisque tu as dit que, en partant d'une position qui n'était pas empreinte d'une extrême sympathie, j'arrivais à peu près à comprendre ce qu'il dit. J'espère que c'est... Sur le premier point, c'est parfaitement vrai. Sur le deuxième, j'espère que ça l'est également. Alors, d'une part, moi, je suis moi aussi jaloux parce que je ne connaissais pas ou j'avais oublié ces très jolis vers là, que tu citais. Et j'aurais dû effectivement me souvenir ou mieux comprendre que, comme tu dis, quand tu as dit, il avait été poli avant d'être hérissé ou quelque chose comme ça. Et ça éclaire énormément, en effet, la question. Mais je crois, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, sur le sens de Rousseau et le sens en tout cas que j'ai voulu lui donner, c'est-à-dire celui de, non pas celui de quelqu'un qui met tout par terre, mais de celui de celui de quelqu'un sans qui la discussion serait beaucoup moins intéressante. C'est un fait que ça. Si on restait dans le monde de Voltaire et de Montesquieu, on tournerait en rond assez rapidement. Et après tout, les deux auteurs que je préfère, c'est-à-dire Hume et Kant, ont été l'un et l'autre sensibles aux arguments du subtil Diogène. Plus Kant sans doute que Hume, mais enfin, Hume les connaissait fort bien, simplement il connaissait Rousseau d'assez près pour pas avoir envie de trop le fréquenter, ce que je comprends assez bien. Rousseau étant hérissé, il finissait par ressembler un peu au hérisson de Schopenhauer, là, où l'image de la sociable sociabilité, il n'avait pas envie d'aller voir de trop près. Précisément, dans cet apport qu'il fait à la conversation que j'essaye de reconstituer, il a génialement mis le doigt, comme toujours, sur les questions les plus délicates. Et comme c'est un véritable grand philosophe, ce dont j'ai jamais douté, il a ouvert la voie, certes, à un certain nombre de développements que je n'aime pas, mais lui-même ne s'y est pas arrêté. C'est ça qui est intéressant. D'abord parce que, si bizarre que ce soit, sa construction du couple, de l'amour, etc., finit par faire une place importante à des vertus qui sont, ou à des grâces qui viennent de la politesse française, sauf que c'est en dehors du cercle social. C'est un peu bizarre, mais enfin, on a le droit d'être galant, mais uniquement avec sa femme. Voilà. C'est un peu étrange comme idée, mais enfin, pourquoi pas. Si on ne sort pas de chez soi, et si on est marié peut-être à quelqu'un d'autre que Thérèse Levasseur, c'est assez concevable. Mais comme il avait beaucoup d'imagination, il avait réussi à concevoir ce qui était sans doute assez loin de ses expériences. Et d'autre part, comme tu me l'avais signalé, je l'ai intégré d'ailleurs dans ma construction, il y a ce passage des confessions sur lequel tu as écrit un bel article, sur sa fausse et maussade timidité, qui montre bien qu'il ne s'est pas arrêté là. Alors, ce qui est intéressant en même temps, c'est qu'il représente un point de rupture qui est majeur, et une fois la protestation rousseauiste émise, elle sera toujours là. Et si je peux conclure cette première, c'est vrai que ça parle depuis bien longtemps là, tant que je m'arrête, si je peux conclure sur ce point, ce qui m'a frappé dans la réception, qui en général est tout à fait agréable, de mon livre, j'ai été mieux servi que le livre que nous avions fait ensemble. Si vous voulez, j'ai l'impression, si vous voulez, que toutes les injures ont été déversées au moment du livre que nous avons fait ensemble sur le malaise dans la civilité, où là, on a eu l'occasion de nous traiter tous les deux de disciples d'Henri Massis et de Charles Maurras, de nostalgiques de l'Ancien Régime, d'ennemis de la Révolution, d'ennemis de la jeunesse, des banlieues, etc. etc. Bon, cette fois-ci, ça m'est un peu épargné. Mais ce qui reste quand même, ça m'a frappé chez beaucoup de lecteurs, c'est des choses qui viennent un peu de cet héritage rousseauiste qui n'est pas celui que je préfère. C'est-à-dire notamment l'idée que le plus profond dans toute cette affaire, celui qui a vendu la mèche, c'est Rousseau. C'est ça que j'ai lu, si tu veux, dans quelques-uns des papiers qu'on m'a consacrés, c'est que, grâce à Philippe Reynaud, nous voyons bien que toutes ces histoires de la politesse française, de la civilité française, etc., ce sont des blagues qui sont le produit de la monarchie absolue, de la corruption, etc. Et ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que j'ai trouvé ça à la fois dans l'ancien journal de la classe ouvrière, dans l'Humanité, et dans un site internet plutôt conservateur, qui a sélectionné comme les passages vraiment les plus sympathiques, un texte de Rousseau, enfin un commentaire de Rousseau et un commentaire de Tocqueville qui n'aimait pas trop, contrairement à ce qu'on croit, la civilité de la fin de la monarchie. Parce qu'il n'aimait pas, pour différentes raisons, il n'aimait pas beaucoup la société de cour, c'était un noble de province, etc. Donc j'ai l'impression que il reste celui qui est au premier plan et qui exprime le plus spontané, enfin, qui a créé l'idiome de notre temps, si tu veux. C'est ça qui est, c'est l'air du temps, l'idiome de notre temps, sauf qu'il n'écrit pas, lui, par petites phrases. Et nous avons les uns et les autres beaucoup à apprendre de lui, pour ce qui l'appelle lui-même d'ailleurs avec une certaine mauvaise conscience, mon beau style, puisqu'il se plaint d'avoir un beau style, évidemment. il ne peut pas faire autrement, si tu veux. Mais voilà, mais en tout cas, c'est... Moi, je suis peut-être un Weberien à visage humain, mais tu es une rousseauiste à visage humain et mieux encore à visage féminin. Donc on peut peut-être s'arrêter là pour l'instant.